Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles.
Armel Maignan
sur notre radio.
Cultiver le bien-être, travailler l'estime de soi, prendre le temps de prendre soin. Telles sont les missions de mon invité du mois. Je vous propose pour cette nouvelle émission d'aller à la rencontre de Marie Conant, socio-esthéticienne. Bonjour Marie.
Bonjour Armelle.
Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours personnel et professionnel ?
Oui, avec plaisir. Alors, donc moi, Marie Conant, je suis en Mayenne depuis une quinzaine d'années. J'ai 34 ans. je suis en Mayenne depuis mes 20 ans. Je viens de Brest à la base, je suis bretonne, voilà. J'ai démarré il y a une dizaine d'années dans le social. C'est pour ça que je suis arrivée à Laval d'ailleurs pour mes études de conseillère en économie sociale et familiale. Voilà, que j'ai exercé sur Laval dans différentes associations. Dernièrement, j'ai évolué professionnellement vers la socio-esthétique. Donc j'ai créé mon activité maintenant d'indépendante il y a à peu près un an.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de tourner vers le métier de socio-esthéticienne ?
Plein de choses, en fait, qui se sont, je pense, mises sur mon chemin. Enfin, en tout cas, plein d'expériences, plein de rencontres qui se sont accumulées au fil des années. En fait, déjà, dès ma formation, une structure avec qui j'étais en stage travaillait en fait sur un projet autour de l'estime de soi et de la revalorisation des femmes isolées en précarité sur des quartiers à Mayenne. Et déjà, ce projet m'avait beaucoup touchée, interpellée, parlée. Donc j'avais cherché à en savoir plus, pourquoi, comment ça fonctionnait, avec qui il travaillait. Et donc il travaillait avec une socio-esthéticienne sur Alençon. Voilà, donc premier contact avec le métier qui était du coup en 2010 assez peu connu. Par la suite, sur mon premier poste d'accompagnatrice socio-professionnelle en chantier d'insertion, j'étais aussi confrontée du coup à des personnes, j'accompagnais des personnes fragilisées, en difficulté d'accès à l'emploi, et la composante présentation de soi, estime de soi, était délicate à aborder, à débloquer quelque part. Enfin, moi, j'avais pas forcément les outils, les compétences, la légitimité aussi de parler du corps, de l'hygiène. Enfin, c'est des sujets qui sont souvent sensibles dans l'accompagnement social. J'avais voulu mettre en place un projet avec une socio-esthéticienne à l'époque qui n'a pas pu se faire faute de budget. Donc ça, c'est souvent la grosse problématique. J'ai changé de structure, j'ai travaillé sur une structure pour le logement des jeunes. Et là, pour le coup, on a pu, pendant 2 ans, mettre en place des projets bien-être à destination des jeunes en faisant appel, entre autres, à des socio-esthéticiennes, pas que, mais avec des projets, des ateliers, en fait, prendre soin de soi, revalorisation, avec des socio-esthéticiennes. Et du coup, ça a été une approche que j'ai vraiment appréciée. J'ai vu, moi, en tant qu'intervenante sociale aussi, l'impact que ça pouvait avoir pour ces jeunes. On va dire que ma vie professionnelle n'était plus tout à fait en adéquation avec moi, mes valeurs et ce qui m'animait, et comment j'avais évolué, en fait. Donc ça, je m'en suis rendu compte en bilan de compétences. Et voilà, j'ai voulu me former à la socio-esthétique. Donc d'abord à l'esthétique, puis me spécialiser en socio-esthétique pour pouvoir me lancer moi aussi sur cette nouvelle vie professionnelle.
Elle est dans quelque chose qui t'animait complètement au final. Oui. On entend beaucoup parler de l'esthétique, on connaît toutes et tous. Le métier de socio-esthéticienne est spécifique. Quelles sont les missions spécifiques à ce métier?
Alors, la socio-esthéticienne, elle va du coup travailler avec l'outil, le support esthétique. Donc, on va reprendre en fait les soins conventionnels qu'on peut rencontrer, dont on peut bénéficier en institut, en balnéo, thalasso, etc., en spa. Nous, la particularité, c'est qu'on va l'adapter en fait à la problématique de la personne, à sa demande, à ses besoins, aux besoins, également aux objectifs que vont pouvoir nous transmettre les équipes, les professionnels, parce que du coup, la particularité aussi de la socio-esthéticienne, c'est qu'on ne propose pas de soins à du particulier qui pourrait, bien que peut-être fragilisé ou bien qu'ayant besoin d'un accompagnement spécifique, la démarche première, déontologiquement, la socio-esthéticienne intervient toujours en structure, en partenariat avec une structure, une équipe de professionnels. Et du coup, le soin, cet accompagnement-là, corporel, du coup, fait partie d'un accompagnement global de santé, un accompagnement médico-social, un accompagnement social vers l'insertion professionnelle notamment. Quelques précisions peut-être. Et puis, une des particularités aussi, c'est qu'on intervient en collectif. Autant on a l'habitude et on visualise assez bien la relation entre une cliente ou un client et une esthéticienne, autant nous, en socio-esthétique, on est aussi formés à animer des temps d'ateliers collectifs avec des groupes autour de différentes thématiques, justement pour favoriser le lien social, l'insertion, la capacité à reprendre plaisir, à prendre soin de soi. Et du coup, le collectif va aussi permettre ça, de travailler de manière accompagnée, le prendre soin de soi.
Au final, ça va bien au-delà du soin corporel que l'on peut avoir dans un institut. Il y a toute une démarche autour du corps, autour de la personne en tant qu'humaine. Donc toi, tu proposes des soins personnalisés sous l'enseigne SEM et compagnie, donc socio-esthétique Marie et compagnie.
Oui.
Tu travailles en lien avec des structures. Comment tu travailles au quotidien pour justement aborder ces structures, et puis une fois que la structure est trouvée, comment tu abordes le soin avec les personnes en particulier?
Alors, du coup, la socio-esthétique va s'adresser en fait à toute personne fragilisée, en détresse physique, psychique ou sociale, donc fragilisée par la maladie, les accidents de la vie, le handicap, la dépendance liée à l'âge. Le deuil, l'isolement, la précarité, différentes problématiques qu'on peut rencontrer à un moment de sa vie, dès l'enfance et bien sûr jusqu'à la fin de vie. Et ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Je peux intervenir aussi bien auprès des enfants dans des secteurs comme la protection de l'enfance, sur des services de l'aide sociale à l'enfance, mais également en structure adaptée en IME, en institut médico-éducatif pour des enfants qui ne peuvent pas ou qui ont un accompagnement aménagé lié au handicap. Auprès d'adolescents, je travaille beaucoup sur le secteur jeunesse, auprès d'ados, de jeunes, notamment sur le volet insertion professionnelle. Et puis tout le champ du médico-social, les foyers de vie, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, les résidences seniors, etc. Et puis dans le social, il y a plein de structures encore à rencontrer et à solliciter, que ce soit dans le secteur de l'hébergement, les structures pour les femmes victimes de violences conjugales, tout le champ de l'insertion professionnelle, Pôle emploi, mission locale. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Et en fait, à partir du moment où la personne est fragilisée en fait dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit, et qu'elle a besoin d'un soutien, d'un accompagnement, oui, il peut y avoir du soin, il peut y avoir du médico-social, du soin, de l'écoute, un soutien psychologique, un accompagnement éducatif, un accompagnement par des travailleurs sociaux, une assistante sociale de secteur par exemple. Mais à un moment donné, en tout cas c'est l'angle de la socio-esthétique qui n'a rien de magique, et bien sûr que c'est un travail complémentaire et du coup un travail collaboratif, en partenariat en fait avec tous ces professionnels-là et tous ces intervenants-là. Mais à un moment donné, quand on est fragilisé dans la vie par différents facteurs que j'ai un petit peu évoqués, ça passe aussi par se revaloriser soi, ou en tout cas se reconsidérer, retrouver des sensations positives et bienveillantes à soi, s'apporter un petit peu d'amour tout simplement, et se renourrir aussi comme ça en fait. Et pas, alors bien sûr que avoir confiance en soi c'est bien, mais pouvoir payer ses factures c'est mieux. Mais l'idée c'est que pour se remobiliser, se remettre dans un projet, retrouver peut-être la capacité à se projeter, ou à envisager des démarches, des projets de manière un petit peu plus positive et un petit peu moins angoissée. Et l'idée par la socio-esthétique, c'est que déjà en étant bien avec soi, apaisé avec soi, on sera potentiellement mieux dans son parcours, ou en tout cas...
Le bien-être est la première des choses pour avancer et pour se construire sereinement.
Ça y participe. Pour les socio-esthéticiennes, je pense que oui, c'est la vision qu'on a envie de porter.
Et comment tu abordes un soin avec un ou une adolescente, avec une femme, avec un homme? Il y a des différences, il y a des manières d'aborder qui sont différentes?
Alors, l'entrée en relation, oui, elle est toujours particulière. La première rencontre, on aura toujours de toute façon avant le temps de soin un temps d'échange, une prise de contact, un contact avec l'équipe bien sûr aussi en amont, selon les structures dans lesquelles j'interviens, si j'ai pas forcément connaissance des situations. Après, le rapport au corps, oui, il est très particulier pour peu importe l'âge et peu importe les publics, mais moi déjà dans mon rapport au corps en fait, au toucher, où le toucher il sera jamais le premier contact, il sera toujours accepté. En plus on est dans des périodes où le toucher il peut être rendu difficile, angoissant, menaçant. Donc oui, le premier contact, il est progressif, il est jamais intrusif, ça c'est évident. Mais alors avec les enfants, en tout cas avec les mineurs, forcément il y a des précautions particulières, puisque un adulte qui est dans un contact encadré, dans un contact, on va forcément avoir d'autant plus une attitude particulièrement professionnelle. On va avoir peut-être plus de distance, où on va plus encadrer en tout cas, ou plus verbaliser les choses, bien expliquer tout ce qui va être fait, recueillir le consentement à chaque étape de soin. Mais ça, en fait, on le fait...
Ça devrait être tout le temps avec tout le monde, en fait.
Donc en fait, oui, c'est ça, tout ce travail de mise en confiance, de communication, de validation, étape par étape, recueillir les ressentis, repérer le non-verbal, tout ce qui va être respiration, agitation, souffle, respiration, les mimiques du visage, tous les signaux qui vont nous indiquer que la personne s'apaise et commence à se sentir en confiance avec nous ou pas. Tout ça, on le repère et on s'ajuste, et on peut arrêter un soin parce qu'on sent que finalement c'est pas très opportun là maintenant tout de suite, qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a loupé d'entrée, dans l'entrée en relation.
L'humain finalement c'est la base et le cœur de ce métier-là, et c'est d'autant plus important dans ce métier-là. Toi, par rapport à tes expériences passées, comment cette proposition de soins est accueillie par les personnes? Est-ce que tu travailles plus aujourd'hui avec des hommes, avec des femmes, avec des enfants? Et quels sont leurs retours?
Dans les structures dans lesquelles j'interviens, alors j'ai des publics très mixtes, donc plutôt ouais, des jeunes ou des adultes, hommes et femmes. On a encore quelques garçons, quelques hommes qui ont cet a priori hein, que l'esthétique c'est pas pour eux, que bah non, ils ne vont pas se maquiller. Alors voilà, on réexplique le thème de l'atelier ou ce pourquoi la socio-esthéticienne intervient en structure. Et puis en fait, bah, on se rend compte que bah, assez rapidement, les hommes enfin, voilà, repèrent tout à fait les bénéfices de mes interventions autant que les femmes et en ont tout autant besoin. Et comment c'est accueilli en structure, globalement, bah, les structures, elles ont toutes, enfin très peu, ne voient pas forcément l'utilité. Non, globalement, les structures que j'ai rencontrées, que j'ai pu solliciter, avec qui on est, voilà, on réfléchit à des projets, toutes ont envie de mettre en place des projets de socio-esthétique. Parce que ils voient la complémentarité, ils voient l'intérêt. Après, bah voilà, c'est juste des projets qui mettent parfois un petit peu de temps, qui nécessitent de chercher des financements. Voilà, qui demandent réflexion tout simplement, mais.
On sent dans ton discours et dans la manière d'aborder ton métier, vraiment une volonté d'aller vers l'humain, d'aller vers quelque chose de positif envers ces personnes. Quels seraient les messages que tu souhaiterais véhiculer dans ton métier, dans la relation avec les autres? Est-ce qu'il y a des voilà, des valeurs comme ça qui ont fait d'ailleurs que tu t'es tournée aussi vers ce métier-là?
Oui, vaste, vaste question. Qu'est-ce que j'essaye de transmettre dans mes interventions, dans mes ateliers? Alors, c'est vrai que je fais beaucoup d'ateliers, donc oui, alors le respect, ça fait partie souvent des bases un petit peu qu'on pose en début de séance, quand un groupe se connaît pas forcément, ou des choses comme ça. Le respect de soi, le respect de l'autre. Alors, c'est quoi être respectueux envers soi, envers les autres, on visualise, mais se respecter soi, c'est quoi? Donc, on communique un petit peu là-dessus. Donc, ouais, cette question du consentement, je pense qu'elle est importante de par tous les retentissements que ça peut avoir dans la société, mais oui, être en capacité, et on sait aussi que, enfin, on repère hein, beaucoup d'adultes, et moi y compris, hein, ont beaucoup de difficultés, et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de difficultés à dire non, donc tout simplement être en capacité, apprendre à dire oui en conscience, apprendre à dire non aussi, à faire des choix. Tout ce que j'essaye d'amener, que ce soit en soins individuels ou en atelier collectif, je vais proposer un choix entre, par exemple, pour un atelier soin des mains, un gommage pour les mains, ça va être est-ce que tu préfères du marc de café ou du sucre. Alors, comment on choisit? Alors, j'explique l'intérêt du marc de café et du sucre pour faire un gommage. Et voilà, en fait, à chaque étape, chaque moment d'atelier ou chaque moment de soin, tout est fait pour replacer la personne actrice de ses capacités à prendre des décisions, à se positionner dans un groupe, à retrouver du plaisir à prendre soin de soi, à rendre la personne plus autonome tout simplement. Et la question du choix en fait, enfin, bah là je pense beaucoup au public précaire où en fait, alors les assos travaillent de plus en plus dans ce sens-là, mais c'est vrai que la notion de choix, quand on est en grande précarité, qu'on bénéficie d'aide alimentaire, qu'on a parfois des bons pour avoir des dépannages vestimentaires, des choses comme ça. En fait, bah, le choix, il est quand même assez court, assez limité. Et ça participe pas du coup à. Enfin, c'est pas du tout valorisant pour le coup. Et on perd effectivement quelque part, oui, dans sa dignité d'individu, d'homme, de femme, ayant sa place dans la société. Enfin, c'est quand même plutôt mis à mal. Et effectivement, de pouvoir accompagner justement ces publics fragilisés, isolés, en rupture, enfin, voilà, qui ont cumulé pas mal de problématiques, de pouvoir, ça paraît... peut-être accessoire ou isolé, mais en tout cas, moi, à mon sens, de pouvoir les amener à et travailler sur le corps et travailler sur la question du choix et du coup de l'autonomie. Et c'est, oui, c'est important. Et voilà, et en fait, c'est un tout, quoi. Enfin, moi, à mon niveau, j'essaye d'amener... cette approche-là et d'autres aussi, bien sûr. Et je pense que ça participe après à de la revalorisation.
Il y a une forme d'assistanat, mais il n'y a pas forcément toujours la volonté ou en tout cas la notion de remettre la personne au centre de sa vie et de ses choix. De manière générale, est-ce que tu observes une réelle volonté, tout du moins un engagement envers le monde de l'esthétique pour plus d'inclusion et de bienveillance?
Il y a des choses effectivement qui se passent. Après, j'ai pas une vision globale non plus du monde de l'esthétique. Et voilà, je pense que oui, de manière ciblée, enfin, il y a plein d'initiatives partout, j'imagine, qui permettent, oui, de rendre l'esthétique et le bien-être globalement plus accessible. Après, ça reste connoté dans la société, en tout cas quelque chose qui reste encore, connoté, repéré comme étant superficiel. Je ne parle pas des approches complémentaires, mais vraiment le travail de l'esthéticienne en institut est encore perçu de manière superficielle, en tout cas pas du tout valorisé, c'est un métier qui n'est pas du tout valorisé. Et au-delà de ça, oui, il y a des instituts qui ont créé des concepts plus éthiques ou qui cherchent à intégrer davantage, à adapter leur tarification, par exemple, au plus précaire. Donc il y a des choses qui sont intéressantes, mais qui restent encore isolées.
Le domaine de l'esthétique est souvent ouvert aux personnes qui vivent en toute indépendance, soit les personnes valides, les personnes qui ont un niveau moyen pour vivre, et beaucoup moins pour les personnes qui sont précarisées et isolées. Est-ce que tu sens les effets en fait de ces ateliers, de ces soins? Tu arrives à voir si la mission est accomplie finalement?
Oui, alors c'est vrai que c'est un travail du coup qui nécessite du temps pour pouvoir mesurer quelque part mesurer, observer, évaluer en fait les bénéfices, la portée de l'accompagnement socio-esthétique. Donc ça, c'est un petit peu les aléas aussi des projets, c'est qu'on est quand même plutôt sur des projets à court terme, qui ne permettent pas forcément d'investir, de mesurer finalement ce qu'a pu apporter la socio-esthétique, parce que ça a été un peu court en termes de temps d'accompagnement. Sur des structures où j'ai pu intervenir dans la durée, sur 5-6 ateliers, avec un groupe, et c'est ça aussi qui est intéressant, avec un groupe régulier, du coup j'ai pu observer, en l'occurrence il s'agissait de femmes, ces femmes petit à petit prendre en compte les conseils, s'approprier du coup ses conseils, ses astuces, tout ce qu'on pouvait vivre en atelier, le réexpérimenter chez elles. Donc travailler leur autonomie et leur capacité à prendre soin d'elles en dehors de cette structure aussi qui les encadrait, qui les accompagnait. Toujours avec ce groupe de femmes, on s'est revus un mois ou deux après la fin de nos 6 ateliers, justement pour faire ce fameux bilan global. Et effectivement, c'est des femmes qui ont toujours leurs problématiques. Hein, on est sur des problématiques de santé mentale, donc de toute façon, la maladie, elles vivent avec leurs troubles au quotidien. Pour la plupart, elles ont pu me dire qu'elles s'appréciaient davantage, que leur entourage avait aussi pu observer des changements positifs dans leur comportement ou dans leur façon de se présenter. J'ai une dame qui m'a dit ben maintenant je prends plaisir à me maquiller. Alors peu importe, il y a aucune obligation à se maquiller dans la vie, hein. mais il y a pas de loi ou de règle à ce niveau-là. Mais elle avait ce plaisir-là qu'elle a perdu avec la maladie, etc. Et moi, j'ai pu la guider à un moment donné en lui remettant des pinceaux dans les mains, des crayons dans les mains, et elle a retrouvé en fait ce plaisir, ce goût d'elle-même, tout simplement, de reprendre soin d'elle et de se mettre en beauté.
C'est des messages hyper forts et hyper importants. Là, depuis quelques temps, on entend beaucoup parler du mouvement body positive qui a pour but d'aider les gens à s'accepter, à améliorer le rapport à leur propre corps, notamment par les réseaux sociaux, les médias. Toi, quel est ton avis à ce sujet? Est-ce que tu en as un et quel est-il?
Alors, oui, le body positive, j'ai raccroché le truc il y a 2 ans. J'étais pas très réseaux sociaux, donc voilà. Il y avait des choses qui se passaient autour du body positive et j'ai repéré des choses il y a pas très très longtemps. Ça a permis, je pense, de mon point de vue, de mon regard, ça a permis, je pense, sur certains comptes, notamment sur Instagram, d'amener vraiment davantage de diversité dans les corps que l'on voit, dans les visages que l'on voit, les peaux, les rides, les cheveux blancs. Sur certains comptes, il y a un peu plus de vérité, tout simplement, sur les images que l'on peut voir défiler et l'impact que ça peut avoir pour beaucoup de femmes, et notamment les plus jeunes. On sait que c'est quand même hyper négatif, hyper dévalorisant quand on se compare, en fait, quand on s'identifie à des femmes retouchées, modifiées, etc. Voilà, après, oui, il y a des messages qui sont hyper intéressants sur l'acceptation de soi, l'amour, enfin oui, de nourrir l'amour de soi au quotidien, tel que l'on est, de pas, il y a pas d'injonction, chacun est libre, mais que la minceur n'est pas ne devrait pas être une norme sociale. Enfin oui, c'est chouette. Après, il y a beaucoup de choses je pense à dire là-dessus. Après, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi pas mal de marketing, enfin en tout cas que ça a été un peu une façon aussi pour d'autres femmes ou hommes ou marques de surfer un peu sur la vague du body positive et voilà, et de pouvoir les récupérer un peu sous couvert de diversité.
Pour parler un peu de plus de toi, si tu es d'accord, quel est toi ton rapport à ton corps, à la féminité, et est-ce que de par ton métier, ça t'a aidé aussi toi à faire évoluer ta vision
Oui, je pense que ce parcours de formation en 2 ans, passer par l'esthétique puis la socio-esthétique, ça m'a, moi aussi quelque part, ce temps de formation, ça m'a permis de faire une pause dans ma vie professionnelle et de pouvoir un petit peu me centrer sur moi aussi et d'évoluer aussi sur le rapport au corps, parce qu'effectivement quel intérêt à transmettre à des groupes, à des femmes, à des hommes des messages de d'acceptation de soi, d'amour de soi, de bienveillance, etc. si moi-même je suis complètement prise de complexes, etc. Donc alors après, bien sûr, hein, j'ai mes jours avec et j'ai mes jours où je suis un peu moins fan, mais globalement j'ai évolué, je pense, positivement, oui, si on peut dire. Je partais d'un rapport au corps qui était quand même compliqué, très jeune, j'ai été mise entre guillemets à la diète, des grosses prises de kilos, des pertes de kilos. Alors j'ai pas eu de problématique particulière avec l'alimentation, mais voilà, en tout cas un rapport à la balance particulier, des grossesses, donc un corps aussi qui s'est transformé par la vie, mais voilà, qui m'a aussi permis tout ça et qui me permet au quotidien de faire plein de choses. J'ai repris goût au sport. Alors, c'est pas le sport kilo, c'est pas le sport muscu, c'est le sport voilà, détente, plaisir, lâcher prise. C'est aussi une autre façon de prendre soin de soi. Enfin, donc, oui, je pense que j'ai un rapport à peu près apaisé. Mais voilà, ça a demandé de l'accompagnement et ce que je peux proposer moi en tant que socio-esthéticienne maintenant, je pense que je l'ai vécu en fait en formation, ouais, où on avait toutes nos bagages, enfin, nos fragilités, nos problématiques individuelles en fait, et je pense que c'est pas anodin hein, si voilà quand on va vers le soin, quand on va vers l'accompagnement, quand on va souvent, on retrouve quand même des personnes avec des parcours particuliers, beaucoup de professionnels qui sont dans la résilience. Et je pense que quelque part, oui, ce temps de formation, où on prenait soin en fait les unes des autres, on était dans des accompagnements mutuels et voilà, on a pu évoluer toutes à notre rythme et notamment et en termes de compétences professionnelles, mais aussi dans notre propre estime de nous-mêmes, dans notre propre amour de nous-mêmes.
Est-ce que toi, au cours de ton parcours, humainement, professionnellement, il y a des femmes qui t'inspirent ?
Alors oui, dans la vie, il y a des femmes qui m'inspirent. Après, j'ai pas d'icône, j'ai pas de... Enfin voilà, il y a des femmes connues, etc., que je pourrais citer, qui je trouve, font des super interventions, des super interviews, des super livres, etc. Je rêve peut-être pas plus assez, ou je suis trop terre-à-terre, ou je suis trop dans mon quotidien, mais moi, enfin là, comme je rencontre quand même pas mal de professionnels d'univers différents, ou de bénévoles, ou de structures différentes, en fait, je me rends compte de la richesse de la force de toutes ces femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes à Laval, notamment, hein, Laval, mais pas que, mais qui m'épatent, quoi, qui tous les jours militent, s'investissent, mènent de front leur vie professionnelle auprès des personnes fragilisées et leur carrière et leur vie de femme et de maman et voilà, où s'investissent, veulent faire bouger les lignes, veulent mettre plus de solidarité à Laval, veulent... Enfin, ouais, voilà, c'est plein de rencontres qui me disent ouais, qu'elles sont fortes, qu'elles sont chouettes, qu'elles ont des idées, que c'est de l'énergie, que ça se partage, que ça se transmet, voilà.
C'est toutes les femmes du quotidien, en fait, qui t'inspirent.
Ouais, je suis assez fan des femmes du quotidien, ouais.
À l'avenir, est-ce que tu aimerais développer, faire grandir ton concept, ton entreprise ?
Alors, dans mon activité, je pense me spécialiser aussi avec une approche alors complémentaire, et on verra comment elle s'intègre à la socio-esthétique, mais me former en fait à l'aromathérapie. J'ai aussi, j'ai suivi une formation pour pratiquer et utiliser, on va dire, sereinement, de manière sécuritaire, les huiles essentielles qui ne sont pas à la portée de tous, mais qui ont aussi leur intérêt au niveau émotionnel, au niveau thérapeutique. Enfin voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes. Donc là, pour le moment, j'expérimente dans un cadre privé, familial, et voilà, peut-être qu'il y a des choses à développer voilà, pour avoir une approche un petit peu complémentaire. Et puis bah, par la suite, on verra peut-être un lieu, j'aimerais bien, peut-être un lieu justement pour permettre cette diversité, avoir des espaces où on n'a pas peur de franchir la porte d'un institut parce qu'on n'a pas les codes, parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Un espace ouvert, bienveillant et adapté à plein de personnes, hommes, femmes, enfants.
Ce serait bien qu'un jour la socio-esthétique soit prise en charge un peu et soit vue sous l'angle thérapeutique.
Ouais, on parle pas particulièrement d'approche thérapeutique, même si oui, la socio-esthétique, notamment dans le milieu hospitalier, fait partie des soins de support. Donc, au même titre que les kinés, que les diètes, que la psychomotricienne, ou le psychomotricien d'ailleurs. Effectivement, il y a une grosse, grosse problématique sur la prise en charge socio-esthétique qui fait que, pour le moment, la plupart des socio-esthéticiennes ne travaillent qu'en structure, ne font pas de domicile pour... parce que du coup, on n'est plus dans un cadre de travail en équipe et du coup, tout est à la charge de la personne, du patient. Donc, il y a des travaux en cours sur une reconnaissance par la Sécurité sociale, une reconnaissance, ne serait-ce qu'un forfait prise en charge par les mutuelles. Il y a vraiment un manque de visibilité, une mauvaise prise en compte ou un manque de considération du métier. Il faut savoir que la plupart des socio-esthéticiennes, on est aussi administrativement inscrites sous le code APE de l'esthétique. Voilà, on a bien compris que l'esthétique et socio-esthétique, on est quand même dans deux façons de travailler différentes, deux approches différentes, des publics différents, des modes de travail, des modes d'intervention différents. Par exemple, dans les derniers confinements, quand les instituts étaient administrativement obligés de fermer, les socio-esthéticiennes étaient obligées de fermer aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui me paraissent un peu archaïques et qui effectivement ne nous permettent pas d'avoir une place pertinente et juste en fait.
Si on est une structure et qu'on souhaite découvrir son entreprise, qu'on souhaite contacter, comment ça se passe ?
Eh bien, déjà dans un premier temps, vous pouvez me contacter directement si vous voulez. Donc vous pouvez passer par mon site internet, donc c'est www.socio-esthétique-53.fr pour découvrir un petit peu mon parcours, mes missions, mes activités, et puis sur les réseaux sociaux aussi, notamment sur Facebook, mon compte, ça doit être Socio-Esthétique Marie et compagnie. Je me déplace sur toute la Mayenne, voire en Ille-et-Vilaine aussi. L'idée, c'est de pouvoir, se rencontrer dans un premier temps, voir un petit peu quels sont, comment je travaille, et puis quels sont un petit peu les besoins, les envies, les projets de la structure. Et puis en fonction, on réfléchit à un projet commun ou avec d'autres partenaires aussi, pourquoi pas, à associer.
Je te propose de terminer en musique avec un morceau que tu as choisi.
Alors, j'ai réussi à choisir un morceau, je ne savais pas forcément, c'était pas forcément évident. Mais là, dernièrement, j'ai beaucoup aimé un titre d'Angèle, Taren, en version orchestrale, qui sublime vraiment sa voix, ses textes.
Merci Marie, à bientôt.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Soit ta reine ce soir, toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît.